Notre invité aujourd'hui, Nicole Bassaran, politologue, spécialiste des États-Unis. Bonjour Nicole Bassaran.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de la flambée de violence qui a eu suite à la mort de George Floyd. C'était la semaine dernière. Première information, Nicole Bassaran, c'est que George Floyd connaissait le policier puisqu'il avait travaillé avec lui. C'est une information.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, puisque George Floyd a travaillé à Minneapolis à la fois comme chauffeur de camion, mais aussi comme vigile dans un club de jazz. Et parfois, Derek Chauvin, le policier qui l'a tué, travaillait dans le même genre d'emploi et parfois dans le même club. Donc ils se sont croisés, en tout cas très certainement.
Alors, a priori, on dit que les policiers américains ont l'habitude, on va dire, d'attaquer, en tout cas d'essayer de tuer des Noirs. L'a priori des bons, c'est vraiment ça qui se passe ?
Il y a du racisme dans la police américaine, c'est indéniable. Ce serait absurde de dire que tous les policiers américains sont racistes, mais oui, il reste du racisme dans la police américaine. Les États-Unis ont une histoire très particulière, on le sait, l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation qui était fondée sur la conviction qu'une race était inférieure à l'autre et qui était fondée aussi sur l'usage d'une extrême violence. Le régime de l'esclavage et le régime de la ségrégation et avait comme accessoire le fouet, la torture, la mutilation, le lynchage. Donc il reste du racisme. D'ailleurs, toute société a sa part de racisme. Et aux États-Unis, elle s'inscrit face à la communauté noire d'une manière tout à fait particulière.
Il ne faut pas faire de l'amalgame non plus. Tous les policiers américains ne sont pas racistes. On est d'accord.
Tous les policiers américains ne sont pas racistes. D'ailleurs, on a vu au cours des manifestations des policiers de toutes origines mettre un genou à terre en reprenant ce geste en hommage aux victimes dans le mouvement Black Lives Matter, qui montre bien que tout le monde n'est pas soudé dans la police pour exercer un racisme systématique, bien loin de là.
Nicole Bassaran, de France, en tout cas de ce que nous, on en a vu ici en France, on n'arrive pas très bien à comprendre ce soulèvement des Noirs américains. C'était quelque chose qui avait sous-jacent, ou c'est un événement particulier de George Floyd, ou comment vous l'expliquez, vous, cette flambée de violence ?
Le mouvement de protestation, il est quand même essentiellement pacifique jusqu'à présent. Il y a eu des violences, il y a eu des pillages, mais enfin, c'est un mouvement qui dure depuis une dizaine de jours et de nuits, et pour l'essentiel, il est pacifique. Et dans les rues, on voit surtout beaucoup de jeunes, pas simplement, mais essentiellement des jeunes, beaucoup de jeunes noirs, évidemment, mais aussi beaucoup de jeunes blancs, hispaniques, asiatiques, des gens d'un peu de toutes origines. Donc c'est quelque chose de très, très large. Et je crois qu'il y a, d'abord, il y a eu un choc morale avec cette vidéo terrible de la mort de George Floyd. On a déjà vu malheureusement des films faits par des téléphones portables de ce qu'on appelle des bavures policières et qui sont quand même souvent des meurtres dans ces cas-là. Mais là, c'était très particulier. C'est très long, c'est dans un endroit très calme. On voit un policier blanc parfaitement tranquille dans sa manière d'agir, ça prend 8 minutes et demie, il a une main dans la poche, il sait qu'il est filmé en plein jour, dans un quartier tout à fait paisible, avec des caméras de surveillance accrochées au magasin. Donc il y a quelque chose de tellement outré dans la démarche de violence et de racisme.
Pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, si vraiment il y avait un malaise, on aurait pu créer ces manifestations bien avant, pourquoi aujourd'hui ?
Mais il y a eu des manifestations bien avant. Il y a eu des émeutes et des manifestations autour de ces meurtres de noirs désarmés. C'est la question, évidemment, par la police. Il y en a eu en 2013, il y en a eu en 2014. Et le nombre de ces de ces incidents ou de ces tragédies, malheureusement, ça revient fréquemment. Là, on est dans un contexte particulier. D'abord, la force terrible de cette vidéo qui pose une question morale à tout être humain à peu près normal. On a également le contexte de la présidence de Donald Trump, qui est une présidence qui, tous les jours, organise une crise, stress, angoisse, toujours dans la confrontation, l'injure, la brutalité. Moi, ce que je ressens en parlant à mes amis, mes collègues, ma famille aux États-Unis, c'est une très grande lassitude de cette brutalité dans le pays.
Elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas avec Trump que c'est arrivé.
Bien sûr que non. Non, cette violence, elle est intrinsèque aux États-Unis. Tout le monde ne la pratique pas, bien loin de là. Mais c'est un pays qui a été fondé à la fois sur la passion de la liberté et sur l'esclavage. Et on sait que le génocide des Indiens américains, l'esclavage lui-même, la conquête de l'Ouest sont des moments d'histoire empreints d'une grande violence. Mais ça n'empêche pas qu'à l'heure actuelle, il y a une très grande fatigue face à tout ça. Très grande fatigue face aux tueries de masse dans les écoles, dans les universités. Il y en a beaucoup plus depuis quelques années. Ça date bien avant Donald Trump, mais ça s'amplifie avec le temps qui passe. Lassitude de voir l'impunité de certains policiers quand ils commettent des exactions. Et lassitude aussi du stress quotidien de la présidence Trump.
Alors, Nicole Basseran, vous nous avez dit tout à l'heure que pour vous, c'était des manifestations qui étaient pacifiques et pourtant, on le sait, certaines synagogues, certains livres de Torah, certains juifs ont été attaqués. Il y a des vidéos qui circulent également. Comment on peut comprendre que...
Alors, je vous avoue que là, je ne vais pas pouvoir en parler parce que je ne suis pas au courant.
Ah bon.
J'ai vu, je ne vous dis pas que ça ne soit pas vrai, mais je vous avoue mon ignorance à cet égard.
Alors, je peux vous confirmer, des images très claires ont été tournées. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait pousser les Noirs à s'attaquer aux Juifs ?
Non, vraiment, voyez-vous, je peux donner un contexte historique, mais là, dans l'immédiat, j'aurais vraiment besoin, je ne vais pas en doute du tout ce que vous me dites, mais je pense qu'on a besoin de savoir où, comment, quand, dans quel contexte.
A priori, à Minneapolis.
Je peux vous dire quelque chose de plus général sur le rapport
Alors,
entre...
Alors, on vous écoute, oui.
Il y a eu une véritable alliance entre militants juifs et militants noirs au début des années 60, et particulièrement autour de Martin Luther King. Quand on voit le discours « Je fais un rêve » à Washington en août 1963, on voit beaucoup de visages blancs dans la foule qui est là pour l'écouter. Et les avocats juifs, notamment, ont joué un rôle très important dans les premières années du mouvement des droits civiques, comme conseillers et comme militants particulièrement pour aider les Noirs dans le Sud à s'inscrire sur les listes électorales. Mais cette alliance, elle a dérapé. Elle s'est rompue à partir du moment, vers le milieu des années 60, où il y a eu une revendication Black Power, Black Panther, les musulmans noirs, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, viré vers des tendances antisémites. Et c'est vrai que les morceaux ne se sont jamais totalement recollés. Même Jesse Jackson, qui reste populaire, mais quand il a été candidat à la présidentielle dans les années 80, il y a eu des phrases antisémites qui ont été prononcées. Donc là, on est dans une relation très abîmée. Il n'y a aucun doute.
Yes, anywhere on the transcontinental.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Donald Trump. Est-ce que vous pensez, comme certaines personnes, que Donald Trump a perdu sa réélection sur cette affaire-là?
Et sur la mauvaise... Je ne pense pas du tout que...
Et sur la mauvaise...
Je ne pense pas... Oui. Je ne pense pas du tout que l'élection de novembre soit jouée dans un sens ou dans l'autre. Bon, là, on voit que Donald Trump est en difficulté, il n'y a aucun doute. Son argument très très fort de campagne, l'économie prospère... Elle a été retirée par les conséquences de l'épidémie. L'épidémie a frappé très fort et elle n'est pas terminée. On a plus de 100 000 morts aux États-Unis. Les manifestations et les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd ont attisé la division entre les partisans de Donald Trump et les autres. Et son recours au slogan de Richard Nixon, « La loi et l'ordre », ne semble pas aujourd'hui porter autant qu'il l'espérerait, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il ait perdu l'élection. Oh. Il est très en retard dans les sondages sur Joe Biden. Mais on est au mois de juin, et d'ici novembre, s'il peut convaincre une majorité d'Américains qu'il est le mieux placé pour relancer l'économie, qui sera certainement au centre des préoccupations à l'automne prochain, rien ne nous dit qu'il ne puisse être réélu.
D'accord. Pour vous, rien n'est joué.
Non,
d'un côté ni de l'autre.
Non.
Et comment vous expliquez l'appui de gens comme George W. Bush ou bien de Colin Powell à Biden? C'est vraiment parce que c'est le moment ou parce qu'il y a des arrière-pensées derrière?
Quelqu'un comme George W. Bush, par exemple, l'ancien président, comme Colin Powell, l'ancien chef d'état-major américain, ce sont vraiment des gens qui ne sont plus dans la carrière politique. Ils en sont sortis. Ce sont des gens relativement âgés qui s'expriment très très peu et qui, si aujourd'hui, font savoir qu'ils ne voteront pas Donald Trump, ce n'est pas qu'ils ne sont plus républicains, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Donald Trump comme l'un des leurs. Et qu'ils pensent que Donald Trump met en danger la démocratie américaine. Il y a un mouvement assez fort chez les républicains, je pense notamment à un mouvement qui s'appelle The Lincoln Project, ce sont des républicains. Mais ils disent que Donald Trump n'est pas l'un des nôtres, et dans le cas présent, l'urgence est de ne pas réélire Donald Trump.
C'est quelque chose qui peut gêner Donald Trump pour sa réélection, ou pas du tout?
Je pense que ce que l'on voit aujourd'hui qui peut encore éventuellement, mais on n'en est pas certain, gêner Donald Trump en novembre, c'est effectivement d'être désavoué par une partie des caciques du Parti républicain. Mais enfin, soyons honnêtes, à cet égard, les élus républicains n'ont pas été d'un courage extraordinaire et pour l'instant, ils attendent de voir s'ils risquent de couler ou de gagner avec Donald Trump. Plus grave, me semble pour lui, le conflit au fond, conflit politique, mais qu'il a avec l'armée et avec les hauts gradés de l'armée qui lui reproche notamment de vouloir utiliser l'armée en gros comme un accessoire électoral. L'armée, vous savez, c'est un organisme conservateur, mais se doit d'être neutre et au service de tous les Américains. Et là, les relations sont tendues avec Donald Trump. Et par ailleurs, dans les derniers jours, donc là aussi, ça peut beaucoup changer. Mais Donald Trump a perdu des points dans deux éléments cruciaux de son électorat. Les évangéliques blancs, donc très conservateurs, et les catholiques blancs, qui sont les deux qui forment vraiment un socle très fort de son électorat, qui n'ont pas apprécié ces photos devant l'église St. John's à Washington, en brandissant la Bible à la main avec une attitude très vindicative. Certains ont approuvé, mais d'autres ont trouvé que ce n'était pas, disons, une manière digne d'utiliser la Bible.
Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis, je voulais savoir par rapport au début de notre interview, le fait qu'il y ait aussi des manifestations noires en France, notamment pour Adama Traoré, c'est quelque chose qui vous a choqué?
Alors moi, je ne suis pas proche des manifestations parce que je ne suis pas à Paris en ce moment, donc je n'ai pas
D'accord.
vu les choses. J'ai vu les choses à la télévision. Je pense que importer en France l'histoire raciale des États-Unis est une complète erreur. L'histoire de France et l'histoire des États-Unis est très différente et l'histoire des relations raciales dans ces deux pays est très différente. Néanmoins, quand on voit un homme qui meurt aux mains de la police, il y a une question similaire à poser, et ça ne me choque pas qu'on la pose. Après, les choses qui sont dites dans les manifestations me semblent parfois très excessives.
Qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau des États-Unis dans la suite? C'est qu'il y ait des lois qui soient votées, que Trump change de braquet. Qu'est-ce qu'on peut supposer se passer maintenant?
Il y a une chose qui est certaine, c'est que Donald Trump ne va pas changer. J'ai eu l'occasion, pour l'écriture d'un livre, d'explorer vraiment ses déclarations publiques depuis une quarantaine d'années, parce que c'est un personnage public depuis bien avant sa candidature à la présidentielle. C'est un homme qui n'a jamais changé dans son attitude à l'égard des autres, à l'égard du monde, dans son besoin viscéral et quotidien d'avoir un adversaire, de démolir cet adversaire, son goût de la force, son goût de la brutalité. Donc Donald Trump ne va pas changer. Là, les démocrates de la Chambre ont proposé une loi pour des réformes dans la police, notamment sur l'entraînement, sur l'usage de la force létale, sur le rôle de la hiérarchie pour écarter éventuellement les brebis galeuses. Cette loi, elle sera certainement votée à la Chambre et refusée au Sénat, où pour l'instant, les sénateurs républicains n'ont pas donné aucun signal pour dire qu'ils allaient en approuver une partie ou non. Si Donald Trump est réélu, ce qui est une vraie possibilité, il se sentira légitimé dans sa manière d'exercer le pouvoir. Et s'il n'est pas réélu, je pense que comment dire, la période qui suivra immédiatement les élections de novembre, avant l'intronisation éventuellement d'un président Biden en janvier, seront des semaines très chaotiques, car je n'imagine pas Donald Trump acceptant la défaite de bonne grâce. Maintenant, sur strictement la question des pratiques policières,
Oui.
pour l'essentiel, ça dépend des villes et des conseils municipaux. Et là, il y a beaucoup de villes qui annoncent qu'elles vont faire des réformes sur ces questions de comment on distribue le budget, comment on exerce le maintien de l'ordre, comment on entraîne les policiers, comment éventuellement ils peuvent être sanctionnés s'il est avéré qu'ils ont commis des actes répréhensibles. Donc des choses peuvent changer, mais plutôt au niveau local.
Alors, Nicole Bacharan. On va pas se quitter sans avoir évoqué les relations entre les États-Unis et Israël, puisqu'on sait que Donald Trump et Netanyahou sont très amis. Trump est le président le plus proche d'Israël. Il y a une question d'annexion qui va se dérouler dans quelques années. La lune de miel peut continuer sous Joe Biden?
Oui, Joe Biden a toujours eu des très bonnes relations avec Israël. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là avec Joe Biden. Si Joe Biden est élu président, les États-Unis resteront un fidèle soutien d'Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Autant qu'avec Trump.
Vous savez, moi, il me semble que le soutien de Donald Trump est très fort. Je ne le qualifierais pas forcément de très fidèle. Quand on dit Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont très amis, je pense qu'ils se servent très bien l'un de l'autre. Et quand
C'est jeu
Netanyahou, il y a
politique.
quelques mois, a eu des déboires électoraux, Donald Trump a dit « Ah, moi, je ne suis pas l'allié de Netanyahou, je suis l'allié d'Israël. » Donc, il me semble que Donald Trump soutient Israël avec des arrière-pensées électorales très fortes chez lui, et notamment du côté des évangéliques des protestants américains qui ont une vision très particulière de l'avenir d'Israël, je ne sais pas si c'est forcément le meilleur allié d'Israël.
Voilà. Eh ben, on verra ça peut-être au mois de novembre pour les élections. Je vous remercie beaucoup, Nicole Bacharan, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette situation aux États-Unis. Et on espère éventuellement peut-être vous avoir dans quelques mois pour parler des élections aux États-Unis sur cette antenne.
Avec grand plaisir.
Merci, Nicole Bacharan, d'avoir été avec nous. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.